VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'armée zimbabwéenne a catégoriquement nié aujourd'hui faire campagne pour le président Emmerson Mnangagwa et son parti au pouvoir, la ZANU-PF, en vue des élections générales du 30 juin, ainsi que l'en accuse l'opposition. Les forces de défense du Zimbabwe ne jouent aucun rôle direct dans les élections à venir, a déclaré le porte-parole de l'état-major, le colonel Overson Mugwisi, lors d'une rare conférence de presse. L'actuel chef de l'État parle largement favori de la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline de son chef historique, Morgan Tsvangirai, décédé en février dernier. Un opposant au régime du président Teodoro Obiang-Nguema, emprisonné pour sédition, est mort lundi des suites de torture à la prison d'Evinayong dans le centre de la Guinée équatoriale, a affirmé son parti Citoyen pour l'innovation. Juan Obama Edu est mort des suites de torture dont il a été l'objet de la part du commissaire de police d'Akonibé, ville du sud-est de la partie continentale de la Guinée équatoriale, a affirmé Citoyen pour l'innovation dans un communiqué. Les autorités militaires et le directeur de la prison, Devinayong, ont refusé que le prisonnier reçoive des soins selon ce parti d'opposition interdit et dissous en février. Le général Gilbert Diendéré, l'un des cerveaux présumés du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, a été mis en cause pour la première fois depuis l'ouverture du procès par un co-accusé. Le général Diendéré a instruit de faire le coup d'État, a déclaré mardi à la barre l'adjudant Jean-Florent Nyon, quatrième accusé à témoigner de ce procès historique. Le général Diendéré est le principal accusé du procès du coup d'État du 16 septembre 2015 avec le général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du régime Compaoré. Le coup d'État manqué a fait 14 morts et 270 blessés. Le gouvernement sud-soudanais a présenté au Parlement une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir. Cette décision intervient dans un contexte de pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles de Riek Machar. Irémé Herman Ngbo fait le point.
Vous êtes... Une première mouture du test a été adoptée hier par les députés sud-soudanais. Le test doit être envoyé au Parlement pour une seconde lecture d'ici à 30 jours. Le Soudan du Sud est depuis 2015 dirigé par des autorités de transition pour l'exécutif et le législatif sur la base de l'accord de paix de la même année. Leur mandat expire en août 2018 et la prolongation est nécessaire pour éviter un vide institutionnel. L'opposition parlementaire approuve la procédure, mais pour un député sous couvert de l'anonymat, ces amendements montrent que le gouvernement et le chef de l'État Salva Kiir ne seront pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. La semaine dernière à Khartoum, Salva Kiir et Riek Machar se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu permanent. Mais peu après, les rebelles de M. Machar ont accusé les troupes gouvernementales d'avoir attaqué une de leurs positions et jusque-là, aucun camp n'a annoncé son retrait des pourparlers en cours.
Au Soudan voisin, les autorités ont déploré le nouvel avertissement aux voyageurs publié par les États-Unis qui appellent les citoyens américains à ne pas se rendre au Soudan en évoquant des attaques potentielles de groupes terroristes contre des étrangers. Le nouvel avertissement du département d'État a été publié lundi sur le site de l'ambassade des États-Unis à Khartoum. Il remplace un précédent émis en octobre 2017, quelques jours après la levée par Washington de sanctions commerciales imposées au Soudan depuis 1997. Les premiers barils de pétrole exploités au Sénégal sont attendus en 2022 après la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz. Le gouvernement sénégalais a lancé le 12 juin dernier des consultations pour recueillir les avis des différents partenaires sociaux sur comment tirer meilleur profit de cette ressource. L'opposition, elle, accuse l'État de manquer de transparence et exige la publication des contrats pétroliers. Qu'en pensent les syndicalistes du secteur? Abdourahmane Dia a posé la question à Cheikh Diop. Il est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement.
La Confédération contrôle à 100% ce secteur et nous n'avons connu que les activités aval. L'amont, nous n'avons jamais connu. Aujourd'hui, le Sénégal...
Vous n'avez jamais connu la production.
La production, c'est ça. Nous n'avons jamais connu la production. Aujourd'hui, nous entrons en plein dans cette production et que le pays va être positionné probablement, d'après les premières découvertes, en cinquième pays producteur de pétrole. Ceci est extrêmement important, donc il nous faut réajuster, adapter nos stratégies syndicales pour que cette production production pétrolière puisse être destinée aux populations, essentiellement aux générations présentes et futures.
Beaucoup de pays qui ont découvert le pétrole s'étaient fixés comme objectif d'aider les populations à profiter de cette manne pétrolière. Ça n'a pas été le cas après.
Justement, c'est en fait ça le véritable combat des acteurs sociaux du secteur du pétrole que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous offrir sur l'international pour pouvoir s'imprégner des meilleures pratiques en la matière, pour pouvoir s'imprégner également des meilleures orientations dans le secteur du pétrole pour que le pétrole, qui est une ressource naturelle et par principe une bénédiction, ne soit pas une malédiction pour les populations et pour les travailleurs.
Et justement, le président Macky Sall, le 12 juin dernier, lors d'une concertation sur le pétrole, avait déclaré que, contrairement à ce que beaucoup craignent, le Sénégal n'est pas obligé d'être sur cette liste de pays où le pétrole est une malédiction.
Je suis d'avis et nous œuvrons à cela. Mais pour éviter cette malédiction, je pense que nous devons nous ouvrir, échanger, discuter, mais également que chacun participe au débat, que chacun apporte sa contribution pour qu'enfin le Sénégal débouche sur des pratiques qui puissent être différentes de celles qu'on a connues ailleurs et qui ont entraîné la malédiction.
Il y a eu ce débat justement sur la manière dont ces contrats ont été attribués et une polémique sur cela, et on accuse le gouvernement de n'avoir pas été transparent sur l'attribution de ces contrats. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous, acteurs sociaux, nous pensons que de toute façon les contrats vont être publiés. On ne peut pas échapper à cela. Mais le véritable combat pour nous, c'est le combat de la conception de ces contrats, parce que c'est des prototypes qu'on nous propose et qu'on nous impose partout ailleurs, c'est la même chose. Le Sénégal ne peut pas seul porter ce combat.
Combien gagne le Sénégal dans le pétrole? Combien va gagner le Sénégal? 10%?
Difficile à dire, parce que dans les types de contrats qui existent, les gains et les rapports sont évolutifs. Donc à présent, dire ici que le Sénégal va gagner tant pour cent va être difficile. Je sais que dans les premières opérations...
C'est souvent autour de 10%.
Dans les premières opérations, ça tourne autour de 10%, mais ces 10% ne sont pas figés et sont évolutifs.
C'était le syndicaliste sénégalais Cheikh Diop, du passage dans nos studios ici à Washington. Les États-Unis célèbrent aujourd'hui le 242e anniversaire de leur indépendance. Le 4 juillet est férié partout donc sur le territoire américain et est marqué dans le pays par des pique-niques, des défilés, des feux d'artifice. Ici à Washington, le président américain Donald Trump et son épouse Melania organisent un pique-nique pour les familles des militaires à la Maison-Blanche. Il y aura ensuite un défilé militaire sur Constitution Avenue, dont le point de chute est le Washington Monument, dédié au premier président américain, George Washington. Il est prévu également un concert au Capitole avec, entre autres, l'Orchestre Philharmonique National. La célébration se terminera par un énorme feu d'artifice après le coucher du soleil. À Washington, il est 7h07.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À ce micro, Jean-Roger Billon, la suite de ce journal, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain, jeudi, le matin, une réunion d'urgence sur la situation dans le sud-ouest de la Syrie, où une offensive de l'armée contre des groupes rebelles soutenus par la Russie a provoqué l'exode de quelque 300 000 personnes, selon des sources diplomatiques. Cette réunion a été demandée par la Suède. La présidente en exercice en juillet du Conseil de sécurité par le Koweït a indiqué hier la mission diplomatique suédoise. Selon l'ONU, entre 270 000 et 330 000 Syriens ont fui depuis le 19 juin les bombardements toujours en cours. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, réélu le 24 juin, va prêter serment lundi, marquant l'entrée dans un nouveau système constitutionnel qui lui confère des pouvoirs largement renforcés. M. Erdogan a été réélu le 24 juin pour un nouveau mandat de 5 ans, remportant l'élection présidentielle dès le premier tour, avec 52,6% des voix, selon des résultats non officiels. Le Haut Comité électoral doit annoncer aujourd'hui, en fin d'après-midi, les résultats officiels des élections présidentielles et législatives du 24 juin. Après 56 matchs joués sur 64 au programme, le Mondial 2018 en Russie s'offre 2 jours de repos. Aujourd'hui et demain jeudi, la compétition reprend donc vendredi avec la France de Kylian Mbappé opposée à l'Uruguay. Le même jour, le Brésil croise le fer avec la Belgique à Kazan. Et samedi, il y aura Suède-Angleterre à Samara et Russie-Croatie à Sochi. Jean-Roger Billon, le prochain journal vous sera présenté par Henri Francisque dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.